Alors, the European Library, c'est tout d'abord un portail d'accès aux collections des bibliothèques nationales en Europe, Europe dans son sens le plus large, c'est-à-dire les 47 membres du Conseil de l'Europe. Donc, il y a un intérêt tout à fait particulier pour la Suisse d'y être. Et c'est aussi un portail pour un certain nombre de bibliothèques universitaires, dont la bibliothèque de Zurich, ici en Suisse. Le but, c'est d'offrir un accès libre aux descriptions des collections des bibliothèques, mais là où c'est possible aussi, de faire un lien vers des objets numériques ou numérisés. Et c'est dans ce sens-là qu'on a sélectionné des éléments de cette collection pour la montrer dans une exposition virtuelle.
En résumé, vous avez sélectionné quelques-unes de vos richesses, vous les avez numérisées pour pouvoir les proposer en accès libre, donc.
Les documents que nous avons sélectionnés pour cette exposition, en fait, ont été sélectionnés, si vous voulez, par nos lecteurs eux-mêmes. Parce que depuis un certain nombre d'années, la Bibliothèque nationale a un programme de numérisation sur demande. Et donc, pour des documents qui sont hors droit, sur demande d'un lecteur, on les numérise et on les met à disposition du lecteur, mais ensuite aussi depuis notre site et aussi depuis le site de la European Library. Nous n'avons pas demandé directement à nos lecteurs, mais nous avons profité des demandes qui ont été faites ces 10 dernières années dans le domaine des sciences et des technologies.
Donc les sciences et la technologie, pourquoi déjà ce domaine en particulier?
The European Library a déjà organisé d'autres expositions virtuelles, plutôt axées sur la littérature et l'histoire, et a voulu maintenant élargir son offre en prenant les sciences et technologies, estimant que les 19e et 20e siècles sont des moments clés dans l'histoire des sciences et en voulant mettre en évidence l'apport au niveau de l'Europe dans ces domaines.
Un domaine, des domaines dans lesquels la production helvétique a été, j'imagine, assez foisonnante. Vous n'avez pas eu trop de peine, j'imagine, à trouver des productions pour cette exposition, pour collaborer.
Je n'ai pas eu trop de peine. Par contre, j'ai eu de la peine à trouver des choses qui ne sont pas du XXe siècle. Tout le monde pense spontanément à Einstein, tous les développements du XXe siècle. Puisque nous respectons le principe des droits d'auteur, on ne met pas dans le domaine public des documents qui sont sous droit. Et cela veut dire que notre choix s'est porté surtout sur le XIXe siècle. Et là, j'ai essayé de trouver des documents qui montrent certains domaines où la Suisse excellait, notamment dans l'horlogerie. Ce n'est pas une surprise, et aussi au niveau de l'ingénierie.
Qu'est-ce qu'on peut trouver dans les murs de la Bibliothèque nationale suisse, par exemple, qui concerne le développement de l'horlogerie? De quel type de documents il s'agit?
Alors, nous avons des cours d'horlogerie, nous avons des théories de l'horlogerie. Ce que j'ai sélectionné particulièrement pour l'exposition, c'est un document qui est un cours qui a été donné à l'école professionnelle du Locle, estimant que ça mettait en valeur cette profession.
Est-ce qu'on peut le trouver là, puisqu'on a l'ordinateur devant nous? Je vous propose en quelques clics d'essayer de trouver ça sur cette exposition virtuelle.
Voilà, alors nous allons donc dans Sciences et Machines, et je vais tricher un peu parce que je vais sélectionner le pays pour avoir juste les documents de la Suisse. Et puis, je peux feuilleter tout ce qui était fourni par la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque de Zurich à l'exposition.
Combien de documents en tout pour la Suisse?
65 en tout. Donc, essentiellement des livres de la Bibliothèque nationale et pour Zurich, des photographies. Et puis là, on a la théorie de l'horlogerie. C'est le cours qui était donné au Locle. On clique dessus et on arrive directement sur la page de titre du document.
Voilà, qui date du 28 novembre 1905. Qui était le professeur?
Le professeur était le professeur Fritz Pfister, qui n'est pas un nom très connu, mais je pense que c'est aussi intéressant de montrer que l'histoire de la science est aussi faite des gens qui œuvrent en arrière-plan et qui fournissent aussi les outils qui permettent ensuite les découvertes ou bien, dans le cas précis, l'horlogerie.